Le journal Charlotte Piret. Bonjour Charlotte.
Bonjour, bonjour à tous. Grand débat, hautes ambitions, mais finalement un texte nettement édulcoré que la loi sur les violences sexuelles et sexistes adoptée hier à l'Assemblée nationale. Ce qu'il en reste, ceux qui le critiquent, ce sera dans ce journal. Et puis on en parle aussi à 8h20 avec votre invité Frédéric.
Oui, l'invité du grand entretien de France Inter, la psychiatre spécialiste en victimologie Muriel Salmona. Le Parlement a-t-il adopté une loi utile ou futile? Qu'est-ce que l'amnésie traumatique? Y a-t-il une culture française du viol? Le standard est ouvert. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur franceinter.fr.
Une sortie canyoning qui vire à l'épopée meurtrière. 4 morts hier en Corse, dont une fillette de 7 ans emportée par une vague haute de 3 mètres. On ne parle plus de tension désormais, mais de violence et de répression au Zimbabwe. 3 morts dans les rues de la capitale Harare hier, après la proclamation des premiers résultats des élections qui donnent une très large victoire au parti au pouvoir. Dans l'actualité également, les 4000 mensonges de Donald Trump. 4000 oui depuis le début de son mandat, fois de Washington Post. Quand la joute verbale devient affrontement violent, les rappeurs Kaaris et Booba en sont venus au coup hier à Orly. Des campagnes du Kurdistan iranien à la cérémonie de la médaille Fields, le parcours d'un des lauréats dans ce journal. Et puis, sauver les cigognos de la canicule, c'est la mission que s'est donnée un Mosellan en ces temps de forte chaleur.
France Inter.
Des mois de débats houleux et la promesse d'une grande réforme. C'est finalement une petite loi adoptée à quelques heures des vacances parlementaires par 92 voix, 8 abstentions et pas d'opposition. La loi Schiappa sur les violences sexuelles et sexistes a bien été votée hier soir à l'Assemblée nationale. Mais on est loin de l'ambition initiale du gouvernement, notamment sur la question de l'âge minimum du consentement. Corinne Audouin.
La principale nouveauté de la loi tient en un chiffre, 30. Les victimes mineures de viol ou d'agression sexuelle pourront désormais porter plainte jusqu'à 30 ans après leur majorité, contre 20 ans actuellement. Cet allongement prend en compte la difficulté à relater ou même parfois à se souvenir de ces faits qui peuvent revenir en boomerang des décennies plus tard. Mais au-delà de cette mesure consensuelle, la loi ne bouleverse pas le code pénal. Malgré la promesse d'Emmanuel Macron, le texte ne fixe pas de seuil d'âge en dessous duquel tout acte sexuel entre un majeur et un mineur serait automatiquement considéré comme un viol. Ce sera toujours au magistrat de décider, selon les circonstances, si la qualification de viol peut être retenue. Seul changement, la loi précise que les juges pourront prendre en compte le jeune âge de la victime, en dessous de 15 ans, comme élément constitutif d'une contrainte, ce qu'il faisait déjà la plupart du temps. Une incitation donc plutôt qu'une obligation. Le gouvernement craignait une censure du Conseil constitutionnel. Les associations, elles, crient à la trahison.
Et après des mois de débats houleux, le texte désormais voté est donc toujours l'objet de vives critiques, décevants, inutiles, colère et déception des associations donc, mais aussi de l'opposition. Écoutez par exemple la militante féministe et députée de la France Insoumise, Clémentine Autain.
Cette loi n'est absolument pas, mais absolument pas, à la hauteur non seulement des besoins de notre société en la matière, mais également du mouvement qui s'est levé dans notre pays, je veux parler du mouvement MeToo, qui a permis que des femmes posent en nombre des mots sur ce qui est malheureusement d'une très grande banalité, je veux parler des agressions sexuelles, du harcèlement et du viol. La responsabilité des pouvoirs publics était d'accompagner par des mesures concrètes le mouvement de la société. Or, cette loi ne répond aucunement à ce besoin d'accompagnement de la société. Il n'y a pas de moyens sonnants et trébuchants qui sont adossés à ces 4 misérables articles contenus dans cette loi. Sincèrement, je n'attendais pas grand-chose de votre gouvernement et j'ai réussi à être déçue parce qu'aucun de ces moyens-là n'ont été mis aujourd'hui dans cette loi.
La députée Clémentine Autain au micro de Corinne Audouin. La loi sur les violences sexistes et sexuelles, c'est à retrouver en détail sur franceinter.fr. Et puis on en reparle dans 20 minutes avec l'invité de la matinale, la psychiatre Muriel Salmona. Et puis adoption hier également du projet de loi asile-immigration qui prévoit notamment la réduction du délai d'instruction des demandes d'asile, de quoi faciliter l'accueil des réfugiés, mais aussi les expulsions de ceux qui verront leur dossier rejeté. 4 morts dans un canyon en Corse, dont une fillette de 7 ans, son père et le guide qui les accompagnait, une vague haute de 3 mètres selon les témoignages, a surpris un groupe qui descendait le canyon de Dzoïkou, l'un des plus beaux de l'île. Les violents orages qui se sont abattus dans la montagne avoisinante seraient à l'origine de cette subite montée des eaux. Mais alors qu'une 5e personne est toujours portée disparue, reste aussi à déterminer les responsabilités humaines dans ce drame. Le procureur d'Ajaccio, Éric Bouillard, est avec Maxime Beckmer.
On sait qu'on est à une période de l'année où les orages sont très importants.
On sait qu'on est à un endroit où il n'y a pas d'échappatoire. À partir du moment où le groupe avait franchi ce point, on était en fin de parcours, il leur restait à le terminer, et malheureusement la crue n'a pas laissé le temps.
Il y avait un risque identifié à cet endroit-là de crue ?
En tout cas, certains des témoins qui ont déjà été entendus ont effectivement considéré qu'il y avait un risque de crue, à tel point qu'ils ont fait demi-tour. L'enquête déterminera la connaissance que pouvait en avoir le groupe et le guide au moment où la décision de continuer a été prise.
Et puis ce matin, les recherches ont repris pour la 5e personne toujours portée disparue.
France Inter, 8h06, la suite du journal Charlotte Piret. Au Zimbabwe, les violences ont éclaté après plusieurs jours de tension.
Car la proclamation des premiers résultats de ces élections sans Robert Mugabe, qui a quitté le pouvoir après près de 40 ans, ces résultats ont fait l'effet d'une douche froide pour l'opposition. Victoire écrasante aux législatives pour la ZANU-PF, le parti au pouvoir. Les résultats de la présidentielle, eux, devraient être proclamés dans la journée, mais l'opposition conteste d'ores et déjà ses premiers chiffres officiels dans les rues d'Harare, la capitale, où la répression à balles réelles par endroits a déjà fait 3 morts. Reportage de Lisa Fabian.
À l'annonce des premiers chiffres, c'est la douche froide pour l'opposition zimbabwéenne. Les résultats des législatives sont sans appel. La ZANU-PF, le parti au pouvoir depuis l'indépendance, garde la main sur l'Assemblée nationale. Les résultats de la présidentielle ne sont pas encore connus, mais la colère éclate déjà dans les rues d'Harare. Des centaines de militants du MDC, le principal parti d'opposition, descendent dans la rue pour crier leur désarroi, convaincus que le vote a été truqué.
Ils refusent de nous donner notre vote. Nous avons voté pour le leader de l'opposition, mais il nous donne des résultats frauduleux.
La commission électorale manque de transparence. Ils ont volé nos votes. La commission électorale et le parti majoritaire font en sorte que ce soit les mêmes qui restent au pouvoir pour continuer à bénéficier de la corruption.
Nous en avons marre de ces voleurs, ces criminels, assez.
La police repousse les manifestants à coups de gaz lacrymogène, puis des détonations en rafale résonnent dans la ville. Après la police, c'est l'armée qui fait irruption le long des avenues, comme une confirmation des craintes de la population qui redoutait plus que tout un retour aux violences électorales du passé. À Harare, Lisa Fabian, France Inter.
10 ans passés dans les prisons de la Cour pénale internationale et le retour hier en République démocratique du Congo de l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba, l'ancien chef de guerre, condamné pour des exactions avec sa milice, devrait s'inviter dans la course à la présidentielle pour laquelle son rival et actuel président Joseph Kabila ne peut briguer de 3e mandat. Si Pinocchio avait un rival, Donald Trump serait parfait dans le rôle. Lui, le président pourtant anti-fake news. Mais le chef de l'État américain, que l'on sait adepte des petites phrases sur Twitter de préférence, est aussi un habitué des mensonges et autres contre-vérités. Plus de 4000 en tout depuis le début de son mandat. Un compteur tenu par le Washington Post qui passe au crible toutes les déclarations de Donald Trump. 4000, c'est 7 par jour en moyenne, mais cela va crescendo, car selon le quotidien américain, il y en a plus d'un millier pour les seuls mois de juin et juillet. Marco Voltaire.
Même quand vous allez au supermarché, vous avez besoin de montrer une pièce d'identité. Voilà la déclaration de Donald Trump devant ses supporters mardi. C'est évidemment faux et c'est une énormité de plus pour le compteur du Washington Post qui a recensé 4299 contre-vérités, affirmations trompeuses ou exagérations en un an et demi de mandat, avec un record début juillet quand Trump a menti ou s'est trompé 79 fois en 24 heures. Par thème, l'économie arrive en tête, puis l'immigration. En ce moment, c'est l'enquête russe qui affole le compteur. Il y a aussi la politique étrangère avec des contre-vérités sur l'OTAN ou encore la Corée du Nord, sans oublier le changement climatique qui n'existe pas parce qu'il fait froid en hiver. Enfin, il y a l'obsession de Donald Trump à se comparer à ses prédécesseurs qui a donné lieu à quelques collecteurs. Dernier en date, j'ai de meilleurs sondages qu'Abraham Lincoln. Lincoln, président dans les années 1860, quand les sondages n'existaient pas encore. À New York, Marco Voltaire pour France Inter.
Israël annonce ce matin un nouveau blocage des livraisons de gaz et de carburant dans la bande de Gaza, réplique de l'État hébreu à l'envoi de cerfs-volants incendiaires qui pourraient être rapidement lourdes de conséquences en venant s'ajouter aux coupures d'électricité déjà importantes. Les hôpitaux sont parmi les premiers concernés.
8h09, l'actualité en France, c'est aussi cette violente altercation hier entre deux rappeurs, Booba et Kaaris.
Jusque-là, ces deux-là s'opposaient en musique ou par médias interposés. Cette fois, Ce sont des coups bien réels qu'ils ont échangés. Les rappeurs et leurs acolytes ont semé la pagaille hier à l'aéroport d'Orly, alors qu'ils étaient chacun de leur côté en partance pour Barcelone. Retard de vol, hall fermé temporairement et puis, outre les violences, d'importantes dégradations dans une boutique de l'aéroport. Le tout relayé en direct sur les réseaux sociaux. 14 personnes ont été placées en garde à vue pour ce qui n'était à l'origine qu'une rivalité artistique. Alexis de Meyer.
Les choses avaient pourtant bien commencé entre les deux hommes. En 2012, Booba, déjà superstar, repère Kaaris, un rappeur de Seine-Saint-Denis, et l'invite à le rejoindre sur le morceau Kalash.
Crache-moi dessus, je te lance une bouteille.
Succès immédiat, le clip totalise plus de 30 millions de vues sur YouTube. Mais très vite, les relations entre les deux artistes s'enveniment. En 2014, Kaaris met les pieds dans le plat en direct à la radio avec ce freestyle.
Tous me voient, tu es le roi.
Et depuis, Kaaris et Booba s'insultent régulièrement dans leurs morceaux, mais surtout via les réseaux sociaux. Il faut dire que depuis une dizaine d'années maintenant, Booba s'est spécialisé dans les clashs. Dernière cible en date, le très populaire Maître Gims. La bagarre d'hier n'est d'ailleurs pas une première pour Booba. En 2013, des images de vidéosurveillance montrent une violente altercation à Miami, avec là aussi un ancien proche, le rappeur Lafouin. Mais un nouveau palier est franchi un an plus tard, lorsque le rappeur Rof organise une expédition punitive dans une boutique parisienne appartenant à Booba. Deux jeunes vendeurs sont roués de coups, l'un d'eux tombe dans le coma. Rof écopera de 5 ans de prison ferme.
Une enquête préliminaire a été ouverte hier à Créteil après ce qui ressemble à un nouvel épisode de violence policière. Un homme en garde à vue est ainsi tombé dans le coma pendant 5 jours après avoir subi la semaine dernière une clé d'étranglement pour le maîtriser. L'homme, qui a été qualifié d'hystérique par les forces de l'ordre, a fait un accident vasculaire cérébral quelques minutes après l'intervention de 5 policiers. L'IGPN, la police des polices, a également ouvert une enquête. Au prud'homme, cette fois, cette affaire assez incroyable de 4 bûcherons marocains examinés cet après-midi. 4 hommes exploités pendant 2 ans par l'employeur qui les a convaincus de quitter leur petit village du Maroc pour un travail dans l'Indre. Emploi qui a rapidement tourné au cauchemar. Valentine Letès.
Tous les jours, pendant plusieurs mois, ces hommes travaillent comme bûcherons sur des chantiers de l'Indre et de la Creuse. 2 sont en CDI, les 2 autres en CDD. Jusqu'ici, rien d'anormal, sauf sur leur compte. Après une année au service de leur patron, les 2 hommes en CDI ont seulement touché 2 000 euros. Pourtant, ils n'ont même pas de week-end. Le samedi et le dimanche, l'employeur leur demande de restaurer un ancien kebab dans le centre-ville. Eux, ils dorment à l'étage, à 4, dans un appartement de 15 mètres carrés. Et chaque mois, le patron leur réclame 300 euros de loyer pour payer le propriétaire. Excédés, épuisés, ces hommes qui ne maîtrisent pas le français se tournent vers l'inspection du travail. Et là, stupéfaction, le patron aurait produit de fausses lettres de démission. Aujourd'hui, sans revenus et sans aide, ils espèrent enfin une reconnaissance de leur travail par la justice française.
Les mathématiciens français y ont leurs habitudes depuis 20 ans ou presque, mais pas cette fois. Les 4 jeunes chercheurs lauréats de la médaille Fields sont italiens, allemands et britanniques. L'un d'eux, Kocher Birkar, originaire du Kurdistan iranien, est arrivé au Royaume-Uni comme réfugié politique. Son portrait avec Aude Soufi.
Alors étudiant à l'université de Téhéran, il se rappelle avoir regardé les photos des lauréats de la médaille Fields accrochées au mur. C'était il y a 20 ans et Kocher Birkar est désormais l'un d'entre eux. Un long chemin pour cet homme issu d'une famille rurale du Kurdistan iranien. Il a 11 ans lorsqu'éclate la guerre Iran-Irak et grandit donc dans cette région au cœur du conflit en développant une passion pour les mathématiques. Ses proches se souviennent qu'il restait souvent tard à lire des théorèmes en écoutant de la musique, une habitude qu'il a conservée. À la fin de ses études, il effectue un voyage au Royaume-Uni et y demande l'asile politique. Le gouvernement britannique le place à Nottingham où il travaille avant de devenir professeur à l'université de Cambridge. Il y enseigne toujours actuellement, mais c'est chez lui, seul dans sa salle à manger, qu'il préfère se pencher sur les maths. C'est sans doute là qu'il a élaboré la majeure partie de ses travaux de géométrie algébrique qui lui ont valu hier d'obtenir la prestigieuse récompense. Il affirme que la matière est un mélange de cultures et il s'y connaît sur le sujet, lui, le kurde iranien naturalisé anglais et marié à une thaïlandaise. À Londres, Aude Soufi, France Inter.
Le lauréat, pas tout à fait comblé cependant, puisqu'il s'est fait voler sa médaille hier, quelques minutes seulement après l'avoir reçue. La canicule n'en finit plus de durer. 34 départements en vigilance orange aujourd'hui, globalement tout le sud de la France, de la Gironde aux Alpes-Maritimes, mais aussi tous les départements de l'Est jusqu'en Moselle. La Moselle, où l'on s'inquiète aussi des conséquences de la canicule sur les cigogneaux. Oui, les bébés cigognes, victimes du manque de nourriture et que leurs parents délaissent. Magali Fichter Schubert a rencontré un spécialiste de la question. Depuis le début de l'été, il a déjà récupéré 4 petits cigogneaux abandonnés. 2 d'entre eux n'ont malheureusement pas survécu.
Dans le coffre de Dominique Klein, une caisse en bois percée de trous et à l'intérieur, un bébé cigogne de 3 kilos tout de même, aux plumes noires et blanches et au bec pas encore tout à fait orange. Dominique l'a récupéré dans un jardin.
Elle a un seul défaut, c'est qu'elle n'a pas à manger. Elle crève de faim. Voilà. Les parents ont énormément de problèmes à trouver de la nourriture.
Les cigognes mangent des vers de terre, des limaces, des rongeurs, mais par temps de forte chaleur, ces animaux ne sortent que la nuit et les cigognes ne chassent que le jour. Alors les parents de ce bébé l'ont tout simplement abandonné.
Alors elle attend dans le nid, elle attend, et comme à force l'estomac prend le pouvoir, alors elle est obligée de sortir du nid. Donc elle s'est envolée. Elle a sauté du nid, elle a essayé de chercher quelque chose à manger, mais elle est incapable.
Le problème, c'est qu'à terre, son destin, c'est a priori de servir de casse-croûte à un renard. Heureusement, Dominique a pu récupérer ce bébé-là à temps et en bonne santé. Il va aller prendre des forces dans un centre de soins après un tour chez le vétérinaire, mais tous n'ont pas cette chance.
C'est une grosse, grosse sélection naturelle, oui, il faut le savoir. Cette année, il y a beaucoup de cigogneaux. On est presque en moyenne à 3 cigogneaux par nid, mais la sélection naturelle et la sécheresse qu'on a en ce moment, je pense qu'il y a 50% des cigogneaux qui vont mourir.
Si vous trouvez une cigogne au sol qui semble mal en point, vous pouvez l'attraper très délicatement en faisant attention à son bec et à ses ailes. Mais de toute façon, il faut contacter un centre de soins spécialisé.